Couché dans le fossé, Stepan voyait toujours devant lui le visage doux, maigre, effrayé de Marie Semyonovna et entendait le son de sa voix. « Peut-on faire cela ?» lui disait-elle de sa voix particulière, zézayante. Et Stepan revivait tout ce qui s'était passé avec elle et, saisi d'horreur, il fermait les yeux, secouait sa tête chevelue pour en chasser toutes ses pensées, tous ses souvenirs. Pour un moment, il se délivrait des souvenirs, mais à leur place parut d'abord un spectre noir, et après celui-là d'autres spectres noirs avec des yeux rouges qui tous grimaçaient et lui disaient la même chose. « Tu as fini avec elle, mais fini avec toi-même. Autrement, nous ne te donnerons pas de repos. » Il ouvrait les yeux et de nouveau il la voyait et entendait sa voix. Il ressentit de la pitié pour elle et du dégoût et de l'horreur pour lui-même. De nouveau il fermait les yeux et de nouveau se montraient les noires visions. Le lendemain, vers le soir, il se leva et alla dans un débit. À peine eut-il la force de se traîner jusque-là. Il se mit à boire. Mais il avait beau boire, l'ivresse ne venait pas. Taciturne, il était assis devant la table et buvait un verre après l'autre. Un officier de police vint à entrer dans le débit. « Qui es-tu ? » demanda-t-il. « Je suis celui qui a tué tout le monde hier chez les Dorodvorov. » On le ligota. Et après l'avoir gardé au poste, on le conduisit au chef-lieu. Le directeur de la prison, reconnaissant son ancien pensionnaire tapageur, devenu grand criminel, le reçut sévèrement. « Prends garde de ne pas faire de tapage chez moi !» râla le directeur de la prison en fronçant les sourcils et allongeant sa lèvre inférieure. « Si je m'aperçois de la moindre des choses, je te ferai fouetter à mort. D'ici, tu ne t'enfuiras pas !» « Pourquoi fuir ?» dit Stepan en baissant les yeux. « Je me suis livré moi-même. »« Alors, pas de discussion. Quand le chef te parle, il faut regarder droit dans les yeux !» s'écria le directeur. Il lui allongea un coup de poing dans la mâchoire. À ce moment, devant Stepan, elle se dressa de nouveau. Il entendit sa voix. Il n'écoutait pas ce que lui disait le directeur de la prison. « Quoi ? » fit-il en se ressaisissant au contact du poing sur son visage. « Eh bien, va, il n'y a pas à simuler !» Le directeur s'attendait à du tapage, à des coups montés avec d'autres prisonniers, à des tentatives d'évasion. Mais il n'était rien de tout cela. Quand le surveillant regardait par le judas de la cellule, ou quand le directeur lui-même regardait, il voyait Stepan, assis sur un sac rempli de paille, la tête appuyée sur sa main et marmottant quelque chose. Pendant les interrogatoires chez le juge d'instruction, il ne ressemblait pas non plus aux autres prisonniers. Il écoutait abstraitement les questions, et même quand il les comprenait, il répondait avec tant de sincérité que le juge, habitué à lutter contre l'adresse et la ruse des criminels, éprouvait quelque chose de semblable à ce que l'on éprouve quand on lève le pied devant une marche qui n'existe pas. Stepan racontait tous ses crimes, les sourcils froncés, les yeux fixés sur un seul point, du ton le plus naturel, d'un ton d'affaires, en tâchant de se rappeler tous les détails. « Je suis sorti pieds nus, » disait Stepan, racontant son premier assassinat. « Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte, et alors je l'ai frappé une fois. » Il râlait, alors aussitôt je me suis mis à frapper la femme, etc., etc. Quand le procureur fit le tour des cellules de la prison et qu'arrivé à celle de Stepan, il lui demanda s'il n'avait pas à se plaindre de quelque chose et s'il n'avait besoin de rien, Stepan répondit qu'il n'avait besoin de rien et qu'on le traitait bien ici. Après avoir fait quelques pas dans le corridor puant, le procureur s'arrêta et demanda au directeur de la prison qui l'accompagnait comment se conduisait ce prisonnier. « Je ne puis m'étonner assez, » répondit le directeur, content que Stepan ait loué la façon dont on le traitait. C'est le second mois qu'il est ici et sa conduite est exemplaire. Seulement, je crains qu'il ne mijote quelque chose. C'est un homme courageux et d'une force peu commune. Durant tout le premier mois de sa détention dans la prison, Stepan était sans cesse tourmenté par la même vision. Il voyait le mur gris de sa cellule. Il entendait les bruits de la prison, le bourdonnement de la salle commune située au-dessus de lui, les pas du factionnaire dans le corridor, le tic-tac de la pendule. Et en même temps, il la voyait, elle, avec son regard doux qu'il avait vaincu de leur rencontre dans la rue. Il voyait son cou maigre ridé qu'il avait tranché, et il entendait sa voix attendrissante, plaintive, zézayante. « Tu perdras les âmes des autres, et la tienne, peut-on faire cela ?» Ensuite, la voix se taisait, et les spectres noirs paraissaient. Ses visions se montraient à lui indifféremment, que ses yeux fussent ouverts ou fermés. Quand il avait les yeux fermés, elles étaient plus nettes. Quand Stepan ouvrait les yeux, elles se confondaient avec la porte, les murs, et peu à peu disparaissaient. Mais ensuite, elle reparaissait et s'avançait vers lui de trois côtés en grimaçant et disant « Fini, fini, on peut faire un nœud, on peut se brûler. » Et Stepan se mettait à trembler, à réciter les prières qu'il connaissait, l'Ave Maria et le Pater. Au commencement, cela semblait le soulager. En récitant ses prières, il commençait à se remémorer toute sa vie. Il se rappelait son père, sa mère, son village, le chien, son grand-père couché sur le poêle, les bancs sur lesquels enfant il se roulait. Ensuite, il se rappelait les jeunes filles avec leurs chansons, les chevaux qu'on avait volés, et comment on avait rattrapé le voleur, et comment il l'avait achevé d'un coup de pierre. Il se rappelait sa première détention, sa sortie de prison, puis le gros cabaretier, sa femme, le charretier, les enfants. Et ensuite, de nouveau, c'était elle qui se présentait à son souvenir. Alors, saisi d'horreur, il laissait tomber de ses épaules sa capote, sautait à bas de sa planche et, comme une bête en cage, se mettait à marcher rapidement d'un bout à l'autre de sa cellule, faisant une brusque volte-face devant le mur humide, souillé. Et de nouveau, il récitait ses prières, mais les prières ne le soulageaient plus. Par une longue soirée d'automne, pendant laquelle le vent sifflait et gémissait dans les tuyaux, après avoir marché à travers sa cellule, il s'assit sur sa planche, éprouvant la certitude qu'il n'y avait plus à lutter, que les visions noires étaient victorieuses et qu'il n'avait plus qu'à se soumettre à elles. Depuis longtemps, il avait examiné attentivement la bouche de chaleur de son poêle. Si on mettait autour une cordelette ou une bande d'étoffe, alors ça ne glisserait pas. Et il fallait faire cela adroitement. Et il se mit à l'œuvre. Pendant 2 jours, avec l'enveloppe de la paillasse sur laquelle il couchait, il prépara des bandes. Quand le surveillant entrait dans sa cellule, il couvrait sa planche avec sa capote. Il unissait des bandes par des nœuds et les mettait doubles afin qu'elles puissent soutenir son corps sans se rompre. Pendant qu'il faisait ses préparatifs, il ne souffrit pas. Quand tout fut prêt, il fit un nœud coulant, il passa son cou, puis grimpa sur sa couchette et se pendit. Mais à peine la langue commençait-elle à sortir que les bandes se rompirent et il tomba. Le surveillant accourut au bruit, on appela l'infirmier et on conduisit Stepan à l'hôpital. Le lendemain, il était complètement rétabli. On le fit sortir de l'hôpital, mais au lieu de le remettre en cellule, on le plaça dans la salle commune. Dans cette salle, il vécut avec les 20 prisonniers qui se trouvaient là, comme s'il eût été seul. Il ne regardait personne, ne parlait à personne, et continuait à être tourmenté. Ce qui lui était particulièrement pénible, c'est quand tous dormaient et que lui ne dormait pas, et comme auparavant, la voyait et entendait sa voix, après quoi de nouveau paraissaient les visions noires avec leurs yeux effrayants et qui l'irritaient. De nouveau, comme auparavant, il récitait ses prières, mais comme auparavant, les prières ne le soulageaient point. Une fois, après ses prières, elle lui apparut de nouveau. Alors, il se mit à prier son âme pour qu'elle lui pardonnât. Et quand, vers le matin, se laissant tomber sur sa paillasse, il s'endormit d'un profond sommeil, il la vit en rêve avec son cou maigre, ridé, tranché. Eh bien, tu me pardonneras ? Elle le regardait de ses yeux doux, mais ne répondait rien. Oh, tu me pardonneras ? Il l'interrogea ainsi trois fois, sans qu'elle répondît, et il s'éveilla. À dater de ce moment, il se sentit mieux. Il semblait en avoir pris le dessus. Il regardait autour de lui, et pour la première fois, il commença à se rapprocher de ses compagnons et à causer avec eux. Dans la salle où était endormi Stéphane, se trouvait Vassili, arrêté de nouveau pour vol, et qui était condamné à la déportation. Tchouïev, condamné à la déportation, s'y trouvait aussi. Vassili, tout le temps, chantait de sa belle voix ou racontait aux camarades ses aventures. Tchouïev, lui, ou bien faisait un travail quelconque à raccommoder des habits ou du linge, ou bien lisait l'évangile et les psaumes. Stéphane, ayant demandé à Tchouïev pourquoi il était déporté, il lui expliqua qu'on le déportait à cause de la vraie loi du Christ, parce que les popes, ces trompeurs de l'esprit, ne peuvent tolérer les hommes qui vivent d'après l'évangile et qui les dénoncent. Stéphane lui demanda alors en quoi consistait la loi. Et Tchouïev lui expliqua que la loi de l'évangile consistait en ceci, à ne pas prier les dieux fabriqués de la main des hommes, mais à adorer Dieu en esprit et en vérité. Et il lui raconta comment il avait appris cette vraie religion du tailleur boiteux à l'occasion du partage de la terre. Eh bien, qu'est-ce qu'il y aura pour les mauvaises actions ? Demanda Stéphane. Ah, tout est dit dans l'évangile. Et Tchouïev se mit à lire Matthieu 25, 31-46. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dans la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous m'êtes venu voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons donné à manger, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire ? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu, ou quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus te voir ? » Et le roi, répondant, leur dira, « Je vous dis en vérité qu'en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui est préparé au diable et à ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et ceux-là lui répondront aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou soif, ou être étranger ou nu ou malade ou en prison, et que nous ne t'avons point assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous dis en vérité qu'en tant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne m'avez pas fait non plus. » Et ceux-ci s'en iront aux peines éternelles, mais les justes s'en iront à la vie éternelle. Vassili, qui était assis par terre, près de Tchouïev, et écoutait la lecture, hocha approbativement sa belle tête. « C'est juste, » dit-il résolument. « Allez, maudit, dans les souffrances éternelles, vous qui n'avez nourri personne et n'avez fait que bafrer, il faut qu'il en soit ainsi. » « J'ai lu ça dans Nicodème, » dit-il, désirant se vanter de ce qu'il avait lu. « Est-ce qu'il ne leur sera point pardonné ?» demanda Stéphane, qui avait écouté en silence la lecture en baissant sa tête chevelue. « Attends, tais-toi, » dit Tchouïev à Vassili, qui ne s'arrêtait pas de dire que les riches n'ont pas nourri les pèlerins et ne l'ont pas visité en prison. « Attends, je t'en prie !» répéta Tchouïev en feuilletant l'évangile. Quand il eut trouvé le passage qu'il cherchait, Tchouïev lissa la page avec sa grande et forte main blanchie par la prison et lut Luc 23, 32-43. On menait aussi deux autres hommes qui étaient des malfaiteurs pour les faire mourir avec lui. Et quand ils furent au lieu appelé Calvaire, ils le crucifièrent là et les malfaiteurs l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Mais Jésus disait, « Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Puis faisant le partage de ses vêtements, ils les jetèrent au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Et les principaux se moquaient de lui avec le peuple en disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats l'insultaient aussi, et s'étant approchés, ils lui présentaient du vinaigre, et ils lui disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Et il y avait cette inscription au-dessus de sa tête, en grec, en latin et en hébreu, « Celui-ci est le roi des Juifs !» L'un des malfaiteurs qui était crucifié l'outrageait aussi en disant, « Mais si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre, le reprenant, lui dit, « Ne crains-tu point Dieu, puisque tu es condamné au même supplice ? Et pour nous, nous le sommes avec justice, car nous souffrons ce que nos crimes méritent, mais celui-ci n'a fait aucun mal. » Puis il disait à Jésus, « Seigneur, « Souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Et Jésus lui dit, « Je te dis en vérité que tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. » Stéphane n'avait rien dit. Il restait assis, pensif, comme s'il écoutait. Mais déjà, il n'entendait plus ce que lisait Tchouïev. Alors voilà en quoi consiste la vraie religion. Seuls seront sauvés ceux qui auront nourri les pauvres et visité les prisonniers, et ceux qui n'auront pas fait cela iront en enfer. Et cependant, le brigand ne s'est repenti que sur la croix, et il est allé tout de même au paradis. Stéphane ne voyait là aucune contradiction, au contraire. L'un confirmait l'autre. Les bons iront au paradis, les méchants en enfer. Cela signifiait que tous doivent être bons. Christ a pardonné aux brigands, cela signifiait que Christ était bon. Tout cela était nouveau, tout nouveau pour Stéphane. Il s'étonnait seulement que tout cela lui ait été caché jusqu'à présent, et tout son temps libre, il le passait avec Tchouïev, l'interrogeant et l'écoutant. Le sens général de toute la doctrine lui était révélé. Il consistait en ceci, que les hommes sont frères, qu'ils doivent s'aimer entre eux et avoir pitié les uns des autres, et qu'alors tout ira bien. Quand il écoutait Tchouïev, il saisissait comme quelque chose de connu, mais d'oublié, tout ce qui confirmait le sens général de cette doctrine et négligeait ce qui ne la confirmait pas, attribuant cela à son manque de compréhension. Et depuis ce temps, Stepan devint un tout autre homme. Même auparavant, Stepan Pelagouchikine était doux, mais les derniers temps, il étonnait le directeur, les surveillants et ses compagnons par le changement qui s'était opéré en lui. Sans en avoir reçu l'ordre, et bien que ce ne fût pas son tour, il se chargeait des travaux les plus pénibles, entre autres le vidage du cuveau. Malgré cette humilité, ses compagnons le respectaient et le craignaient, car il connaissait son courage et sa grande force physique, surtout après une histoire avec deux vagabonds qu'il avait attaqués et dont il s'était débarrassé après avoir cassé le bras à l'un d'eux. Ces vagabonds s'étaient entendus pour tricher aux cartes afin de dépouiller un jeune prisonnier qui avait de l'argent. Et en effet, ils le dépouillèrent. Stepan intervint pour lui et reprit aux vagabonds l'argent qu'il lui avait gagné. Les vagabonds se mirent à l'injurier et ensuite le frappèrent, mais il les terrassa tous les deux. Le directeur ayant ordonné une enquête pour savoir la raison de la querelle, les vagabonds dirent que c'était Pelagouchkine qui le premier avait commencé à les frapper. Stepan ne se défendit point et accepta docilement la punition qu'on lui infligea, 3 jours de cachot et le transfert dans la cellule. La cellule lui était pénible parce qu'elle le séparait de Tchouïev et de l'Évangile, et surtout parce qu'il craignait le retour des spectres noirs. Mais il n'eut pas de vision. Toute son âme était pleine d'un sentiment nouveau, joyeux. Il eût été heureux de son isolement, s'il avait pu lire et avoir l'Évangile. On lui aurait bien donné l'Évangile, mais il ne savait pas lire. Étant enfant, il avait commencé à apprendre à lire d'après la méthode ancienne, mais par manque de capacité, il n'était pas allé au-delà de l'alphabet et n'avait jamais pu comprendre la formation des syllabes. Aussi était-il resté illettré. Maintenant, il résolut d'apprendre à lire et demanda au surveillant l'Évangile. Le surveillant le lui apporta et il se mit au travail. Il reconnut les caractères, mais impossible de composer les syllabes. Il avait beau se travailler la cervelle pour apprendre comment les mots se composent de lettres, rien n'en sortait. Il ne dormait pas la nuit, il ne voulait plus manger, et sous l'influence de l'angoisse, il fut envahi par une telle quantité de poux qu'il ne pouvait s'en débarrasser en se grattant. « Quoi, tu n'y arrives toujours pas ?» lui demanda une fois le surveillant. « Je n'y arrive pas. Mais connais-tu le pater ?»« Oui. » « Si tu le connais, alors lis-le, le voilà. » Et le surveillant lui indiqua dans l'Évangile le passage où se trouve cette prière. Stepan se mit à lire en comparant les lettres qu'il connaissait avec les sons qu'il connaissait. Et tout d'un coup, le mystère de la composition des syllabes lui fut révélé. Et il commença à lire. Ce fut une grande joie. Depuis, il se mit à lire et le sens qui se dégageait peu à peu des mots difficilement compris recevait pour lui une importance encore plus grande. Maintenant, l'isolement ne lui pesait plus, mais le réjouissait. Et il fut contrarié quand on le plaça de nouveau dans la salle commune parce qu'on avait besoin de sa cellule pour des criminels politiques qui venaient d'être amenés. Maintenant, ce n'était plus Tchouïev, mais Stepan qui, dans la salle, lisait souvent l'Évangile. Parmi les prisonniers, les uns chantaient des chansons obscènes, les autres écoutaient sa lecture et ses causeries sur ce qu'il avait lu. Deux, en particulier, l'écoutaient toujours en silence et attentivement. Un forçat, un assassin employé comme bourreau, Barkorkin, et Vassili, pris pour vol et incarcéré dans la même prison en attendant d'être jugé. Depuis qu'il était en prison, Makhorkin avait deux fois rempli les fonctions de bourreau et deux fois au loin, car on n'avait trouvé personne pour exécuter les arrêts des juges. Les paysans qui avaient tué Piotr Nikolaïevitch avaient été jugés par un conseil de guerre et deux d'entre eux avaient été condamnés à la peine de mort par pendaison. Makhorkin fut mandé à Penza pour remplir ses fonctions. Auparavant, en pareil cas, il écrivait aussitôt. Il lisait et écrivait très bien. Une requête au gouverneur dans laquelle il expliquait qu'étant envoyé à Penza pour remplir un devoir, il demandait qu'on lui donne l'argent lui revenant pour le séjour et la nourriture. Mais cette fois, à l'étonnement du directeur de la prison, il déclara qu'il ne partirait pas et ne ferait plus fonction de bourreau. « Et les bâtons, as-tu oublié ?» s'écria le directeur de la prison. « Eh bien quoi, les bâtons, soit, mais pour tuer, il n'existe pas de loi. »« Quoi ? C'est de Pelagouchine que tu as appris cela ? Et voilà, tu as trouvé un prophète en prison, prends garde !» Pendant ce temps, Machin, le lycéen qu'il avait enseigné à son camarade à fabriquer un faux coupon, avait terminé ses études au lycée et à la faculté de droit. Grâce à ses succès auprès des femmes et surtout auprès d'une ancienne maîtresse d'un vieillard adjoint au ministre, tout jeune encore, il était nommé juge d'instruction. C'était un homme malhonnête, criblé de dettes, joueur et séducteur de femmes, mais il était habile, intelligent, actif et savait mener les affaires. Il était juge d'instruction dans l'arrondissement où était jugé Stéphane. Dès le premier interrogatoire, Stéphane l'avait étonné par ses réponses simples, véridiques, calmes. Parkin semblait obscurément que cet homme enchaîné, la tête rasée, qui se trouvait devant lui, amené et surveillé par deux soldats, et que deux soldats reconduiraient pour le mettre sous les verrous, il sentait que cet homme était moralement tout à fait libre et infiniment au-dessus de lui. C'est pourquoi, en l'interrogeant, il se stimulait sans cesse pour ne pas se laisser troubler et ne pas s'embrouiller. Ce qui le frappait surtout, c'est que Stéphane parlait de ses crimes comme de choses passées depuis longtemps et commises non par lui, mais par un homme quelconque. « Et tu n'as pas eu pitié d'eux ?» interrogea Marskin. « Oh, c'est pas de la pitié. Alors je ne comprenais pas. Eh bien, et maintenant ?» Stéphane sourit tristement. « Ah, maintenant, on pourrait me brûler un petit feu que je ne le ferais pas. Pourquoi cela ? Parce que j'ai compris que tous les hommes sont frères. « Quoi ? Est-ce que moi aussi, je suis ton frère ?»«
Sans doute. »«
Comment cela ? Je suis ton frère et je te condamne au bagne ?»«
C'est par ignorance. »«
Qu'est-ce que j'ignore donc ?»«
Si vous jugez, vous ne comprenez pas. »«
Eh bien, continuons. Où es-tu allé après ?»
Mais Markin était surtout frappé de ce qu'il avait appris du directeur concernant l'influence de Pelagouchkine sur le bourreau Makhorkin qui, malgré la menace de punition, avait renoncé à remplir ses fonctions. À une soirée chez les Zeropkin, il y avait deux jeunes filles de riches parties, toutes deux courtisées par Markin. Après qu'on eut chanté, Markin, qui venait de se distinguer, car il était très musicien et accompagnait au piano et tenait la seconde voix, se mit à narrer très fidèlement et avec force détail, il avait une très bonne mémoire, l'histoire d'un étrange criminel qui avait converti le bourreau. Makin se souvenait si bien et racontait si bien, parce qu'il restait toujours indifférent aux gens avec lesquels il avait affaire. Il ne pénétrait pas et ne savait pas pénétrer l'état d'âme des autres hommes. C'est pourquoi il pouvait se rappeler si bien tout ce qu'il faisait et disait. Mais Pelagouchkine l'intéressait. Il n'était point entré dans l'âme de Stéphane, mais malgré lui, il se posait cette question, mais Que se passe-t-il en lui ? Il ne trouvait pas la réponse, mais il pressentait qu'il s'agissait de quelque chose d'intéressant. À cette soirée, il raconta toute l'histoire de la conversion du bourreau et les récits du directeur sur la conduite bizarre de Pelagouchkine, ses lectures de l'Évangile et sa grande influence sur ses camarades. Tous écoutaient avec intérêt ce que racontait Makhine, mais la plus intéressée de tous était la fille cadette des Eropkine. Lise, une jeune fille de 18 ans, nouvellement sortie de pension, qui venait de se rendre compte de l'étroitesse et de la fausseté du milieu dans lequel elle avait grandi et qui semblait aspirer avidement l'air frais de la vie, comme il arrive lorsque l'on sort de l'eau. Elle se mit à interroger Makhine en détail, voulant savoir pourquoi et comment un pareil changement s'était opéré en Pelagouchkine. Makhine lui raconta ce qu'il avait appris de l'officier de police sur les derniers meurtres de Pelagouchkine et que celui-ci lui en avait dit comment la douceur, la résignation, le courage en face de la mort de cette très bonne femme, sa dernière victime, l'avait vaincue, lui avait ouvert les yeux et comment ensuite la lecture de l'Évangile avait achevé cette œuvre. Cette nuit-là, de longtemps, Lise ne put s'endormir. Depuis plusieurs mois, en elle se passait la lutte entre la vie mondaine dans laquelle l'entraînait sa sœur et son amour pour Makhine, uni au désir de le corriger. Maintenant, ce dernier sentiment l'emporta. Elle avait déjà entendu parler de la morte, mais maintenant, après cette mort horrible dont Makhine lui avait fait le récit d'après les paroles de Pelagouchkine et tous les détails de l'histoire de Marie Semyonovna, elle était frappée de tout ce qu'elle avait appris d'elle. Lise désirait passionnément lui ressembler. Elle était riche et craignait que Makhine lui fît la cour pour son argent. Elle résolut de distribuer tout ce qu'elle possédait et s'en ouvrit à Makhine. Celui-ci, heureux de l'occasion de montrer son désintéressement, dit à Lise qu'il l'aimait, mais non pour son argent, et cette résolution généreuse, comme il sembla à Lise, le toucha même. Pour Lise, commença la lutte avec sa mère qui ne lui permettait pas de donner sa propriété. Makhine prêtait son aide à Lise, et plus il agissait ainsi, plus il comprenait un monde qui lui était demeuré jusqu'alors étranger, le monde des aspirations morales qu'il voyait en Lise. Le silence régnait dans la salle. Stéphane, couché à sa place, ne dormait pas encore. Vassili s'approcha de lui, le tira par la jambe et lui fit signe de se lever et de venir près de lui. Stéphane descendit de sa planche et s'approcha de Vassili. « Eh bien, frère, lui dit Vassili, travaille un peu, aide-moi. »«
En quoi ?»
« Voilà, je veux m'évader. »
Et Vassili confia à Stéphane qu'il avait tout préparé pour une évasion.
« Demain, je les exciterai au désordre, » dit-il en indiquant les prisonniers couchés. « On dira que c'est moi, on me transférera en haut, et là, je sais comment faire. Seulement, procure-moi le mentonnet du dépôt mortuaire. »
« Oui, cela on peut le faire, mais où iras-tu ? » ?»«
Mais devant moi, n'y a-t-il pas assez de mauvaises gens ?»«
C'est ainsi, frère, seulement ce n'est pas à nous de les juger. »«
Mais quoi ? Est-ce que je suis un assassin ? Je n'ai pas encore perdu une seule âme. »« Et voilà, quel mal y a-t-il à cela ? Est-ce que ne volent pas les pauvres diables ? » ?»«
Ah, ça c'est leur affaire. » Ils auront à en répondre.
À quoi bon leur regarder les dents ? Eh bien, j'ai pillé une église. Quel mal y a-t-il à cela ? Maintenant, je vais en faire autant. Ce n'est pas une boutique quelconque que je veux piller. C'est l'argent du trésor que je veux voler et distribuer aux braves gens. À ce moment, un prisonnier se souleva sur sa planche et prêta l'oreille.
Stepan et Vassili se séparèrent. Le lendemain, Vassili exécuta ce qu'il avait projeté. Il commença à se plaindre de ce que le pain n'était pas cuit. Il excita tous les prisonniers qui demandèrent à voir le directeur pour porter plainte. Le directeur de la prison vint, les injuria tous. Ayant appris que Vassili était l'instigateur de toute cette affaire, il ordonna de le mettre à part dans une cellule de l'étage supérieur. Ce qu'avait voulu Vassili. Vassili connaissait cette cellule où on le transféra. Il en connaissait bien le plancher. Et dès qu'il y fut enfermé, il se mit à disjoindre les planches du parquet. Quand il eut obtenu une ouverture assez large pour y passer, il se fit de même un passage dans le plafond de la salle qui se trouvait en dessous et qui était le dépôt mortuaire. Ce jour, il y avait un cadavre sur la table du dépôt. Dans ce même dépôt se trouvaient des sacs pour le foin. Vassili savait ce détail et avait compté sur ces sacs. Il tira le mentonnet, sortit par la porte et passa dans des latrines en construction. Au bout du couloir, dans ces latrines, il y avait un trou qui allait du troisième étage au sous-sol. En tâtant, Vassili trouva la porte et retourna dans le dépôt mortuaire, enleva le linceul du cadavre déjà refroidi, en soulevant le linceul, il avait touché sa main, prit les sacs et les lia les uns au bout des autres pour en faire une corde, puis il porta cette corde dans les latrines. Là, il attacha la corde à une poutre et descendit. La corde ne touchait pas le sol. S'en fallait-il de beaucoup ou de peu? Il l'ignorait, mais il n'y avait rien d'autre à faire. Il s'y suspendit et sauta. Il se fit mal aux jambes, cependant il pouvait marcher. Dans le sous-sol, il y avait deux fenêtres assez larges pour qu'on y pût passer, mais elles étaient grillées. Il fallait arracher les barreaux de fer. Mais avec quoi? Vassili se mit à fouiller le sous-sol. Il y avait là des planches. Il trouva une planche avec un bout pointu et se mit à disjoindre les briques dans lesquelles étaient scellés les barreaux. Il travailla longtemps. Le coq chantait déjà pour la seconde fois et les barreaux tenaient toujours. Enfin, un côté céda. Vassili enfonça la planche, appuya. La grille se détacha, mais une brique tomba avec bruit. La sentinelle pouvait avoir entendu. Vassili se tint immobile. Tout était tranquille. Il grimpa à travers la fenêtre. Pour s'enfuir, il lui fallait escalader le mur. Dans un coin de la cour se trouvait une bâtisse. Il devait grimper sur cette bâtisse et de là sur le mur. Pour cela, il avait besoin d'un morceau de bois. Autrement, impossible de grimper sur la bâtisse. Vassili retourna au sous-sol. Il reparut bientôt, une planche à la main, et écouta les pas de la sentinelle. La sentinelle, comme Vassili le pensait, marchait de l'autre côté de la cour. Vassili s'approcha de la bâtisse, s'appuya sur la planche et tenta l'escalade. Mais la planche glissa et Vassili tomba. Il était en chaussettes, il les enleva pour s'accrocher avec les pieds. De nouveau, il s'appuya sur la planche, bondit, et avec les mains, saisit le chaînon. Mon Dieu, pourvu que ça ne tombe pas! Il grimpa le long du chaînon et voilà son genou sur le toit. La sentinelle s'approche, Vassili se couche. La sentinelle ne le voit pas, s'éloigne, et Vassili s'élance. La ferraille craque sous ses pieds. Encore un pas, deux. Voici le mur, on peut le toucher de la main. Une main, l'autre se tendent et il est sur le mur, pourvu qu'il ne se tue pas en descendant. Vassili se suspend par les mains, s'allonge, lâche une main, l'autre, oh, Seigneur Dieu, il est à terre. Et la terre est douce, ses jambes sont indemnes et il s'enfuit. Dans le faubourg, Mélanie lui ouvre la porte et il se couche sous la couverture chaude faite de petits morceaux. La femme de Piotr Nikolaïevitch, grande, belle, calme, grasse comme une vache stérile, avait vu de la fenêtre comment on avait tué son mari et traîné son corps quelque part dans le champ. Le sentiment d'horreur éprouvé par Nathalie Ivanovna, ainsi s'appelait la veuve de Piotr Nikolaïevitch, à la vue de ce massacre, était si fort qu'il étouffait en elle, comme il arrive toujours, tout autre sentiment. Mais après que la foule eut disparu derrière la haie du jardin, après que le bourdonnement des voix se fut calmé et que Mélanie, la jeune fille qui les servait, accourant pieds nus, les yeux écarquillés, eut raconté, comme s'il s'agissait de quelque joyeuse nouvelle, qu'on avait tué Piotr Nikolaïevitch et jeté son corps dans le ravin, du premier sentiment commença à se détacher un autre. Le sentiment de la joie d'être délivré d'un despote aux yeux masqués par des lunettes noires qui pendant 19 ans l'avait tourmenté. Elle était horrifiée elle-même de ce sentiment qu'elle n'osait s'avouer et d'autant plus confier à quelqu'un. Quand on fit la toilette du corps jaune, velu, déformé, quand on l'habilla, puis le mit en bière, effrayée, elle pleura et sanglota. Quand le juge d'instruction vint et l'interrogea comme témoin, elle vit dans le cabinet du juge deux paysans enchaînés, reconnus comme étant les principaux coupables. L'un était un vieillard à longue barbe frisée, au visage beau, calme, sévère. L'autre était un homme pas vieux, au type tzigane, avec des yeux noirs brillants et des cheveux bouclés en désordre. Elle déposa ce qu'elle savait. Elle reconnut en ces hommes ceux qui les premiers avaient saisi par les bras Piotr Nikolaïevitch. Et bien que le paysan, qui ressemblait à un tzigane, les yeux brillants, avec des sourcils toujours mobiles, lui eût dit avec reproche « C'est un péché, madame, l'heure de la mort viendra pour vous !» Malgré cela, elle n'eut aucune pitié. Au contraire, pendant l'instruction, s'éveilla en elle un sentiment hostile et le désir de se venger des meurtriers de son mari. Mais un mois plus tard, quand l'affaire, déférée au tribunal militaire, se termina par le verdict condamnant 8 hommes aux travaux forcés et 2, le vieillard à la barbe blanche et le brun tzigane, comme on l'appelait, à la pendaison, elle ressentit quelque chose de désagréable. Mais ce malaise moral, sous l'influence de la solennité de l'audience du tribunal, disparut bientôt. Si l'autorité supérieure reconnaît qu'il le faut ainsi, alors c'est bien. L'exécution devait avoir lieu au village. Le dimanche, en rentrant de la messe, Mélanie, en robe et chaussures neuves, rapporta à sa maîtresse qu'on dressait les potences qu'on attendait pour le mercredi un bourreau de Moscou et que les familles des condamnés ne cessaient de pousser les sanglots qu'on entendait de tout le village. Nathalie Ivanovna ne sortit pas de sa demeure afin de ne voir ni le gibet ni les gens. Elle ne souhaitait qu'une chose, que tout ce qui devait se passer fût terminé le plus vite possible. Elle ne pensait qu'à soi, et nullement aux condamnés et à leur famille. Le mardi, Nathalie Ivanovna eut la visite de l'officier de police rurale qu'elle connaissait. Elle lui fit servir de l'eau-de-vie et des champignons salés préparés par elle-même. L'officier de police, après avoir bu et mangé, lui apprit que l'exécution n'aurait pas encore lieu le lendemain. « Mais comment? Pourquoi? C'est une histoire extraordinaire! » On n'a pas pu trouver de bourreau. Il y en avait un à Moscou, mais mon fils m'a raconté qu'après avoir lu l'Évangile, il a déclaré qu'il ne pouvait pas tuer. Lui-même est condamné pour meurtre aux travaux forcés, et maintenant, tout d'un coup, voilà qu'il ne peut pas tuer quand la loi l'ordonne. On l'a menacé de la bastonnade. Frapper, a-t-il dit, moi je ne puis pas. Tout d'un coup, Nathalie Ivanovna rougit et même devint tout en sueur. Est-ce qu'on ne pourrait pas, maintenant, leur pardonner? Comment pardonner quand ils sont condamnés par le tribunal? Mais le tsar seul peut pardonner.
Mais comment le tsar le saura-t-il? Ah, on a le droit de demander la grâce. Mais c'est à cause de moi qu'on les exécute, dit la sotte Nathalie Ivanovna. Et moi, je leur pardonne. L'officier de police sourit. Eh bien, alors, demandez. Peut-on faire cela? Oh, sans doute. Mais maintenant, il n'y a plus le temps. Oh, on peut envoyer un télégramme. Au tsar? Pourquoi pas? On peut envoyer un télégramme au tsar. La nouvelle que le bourreau avait refusé et était prêt à souffrir plutôt que de tuer, tout d'un coup avait retourné l'âme de Nathalie Ivanovna. Et le sentiment de pitié et d'horreur, qui plusieurs fois déjà avait voulu se faire jour, s'élançait et la prenait toute. Mon cher Philippe Vassilievitch, écrivez-moi le télégramme. Je veux demander leur grâce au tsar. L'officier de police hocha la tête. Non, point d'ennui. Mais c'est moi qui suis responsable. Je ne parlerai pas de vous. Quelle brave femme, pensa le policier. Une brave femme. Ah, si la mienne était comme elle, ce serait autre chose que maintenant. Ce serait le paradis. L'officier de police se mit alors à rédiger le télégramme à l'empereur. Il était ainsi conçu. À Sa Majesté impériale, la sujette de Votre Majesté impériale, veuve de l'assesseur de collège Piotr Nikolaïevitch Sventitsky, tuée par les paysans, tombe aux augustes pieds de Votre Majesté et vous supplie de faire grâce aux condamnés à mort, les paysans tels du gouvernement de district de... L'officier de police envoya lui-même le télégramme et dans l'âme de Nathalie Ivanovna revint la joie. Il lui semblait que si elle, la veuve de la victime, pardonnait et demandait grâce, le tsar ne pouvait ne point pardonner. Lise Robkin continuait à vivre dans un état perpétuel d'enthousiasme. Plus elle avançait dans la voie de la vie chrétienne qui se révélait à elle, plus elle acquérait la certitude que cette voie était la vraie et plus son âme était joyeuse. Maintenant, deux buts lui tenaient à cœur. Le premier, convertir Makhin, ou plutôt, comme elle se le disait, le ramener à sa bonne et belle nature. Elle l'aimait, et à la lumière de son amour, ce qu'il y avait de divin en l'âme de Makhin et qui est commun à tous les hommes, lui était révélé. Mais elle voyait en ce principe de vie commun à tous les hommes la tendresse, l'élévation, la bonté, propres à lui seul. Son autre but était de cesser d'être riche. Elle voulait se dépouiller de ses biens pour éprouver Marine et ensuite, selon les paroles de l'Évangile, elle voulait le faire pour elle, pour son âme. Elle commença par distribuer ce qu'elle avait. Mais son père y fit obstacle et, plus encore que son père, la foule des quémandeurs qui s'adressait à elle personnellement ou par écrit. Alors elle résolut d'aller trouver un moine réputé pour sa sainteté, pour lui demander qu'il prenne son argent et agisse comme il jugerait bon. Ayant appris cela, le père se fâcha, et dans une explication violente avec elle, il la traita de folle, de détraquée, et lui déclara qu'il prendrait des mesures afin de défendre cette folle contre elle-même. Le ton fâché, irrité de son père se transmit à elle, et avant d'avoir pu se ressaisir, elle se mit à pleurer méchamment et à lui dire beaucoup de choses blessantes, le traitant de despote et d'homme cupide. Elle demanda pardon à son père. Il lui dit qu'il n'était point fâché, mais elle voyait qu'il était blessé et que dans son âme, il ne lui pardonnait pas. Elle ne voulait pas raconter cela à Makhin. Sa sœur était jalouse parce que Makhin était complètement éloigné d'elle, de sorte qu'elle n'avait personne à qui confier ce qu'elle ressentait et devant qui elle pouvait exprimer ses regrets. « Il faut se repentir devant Dieu, » se dit-elle. Et comme on était en carême,
Elle résolut de faire ses dévotions, de dire tout à son confesseur, de lui demander un conseil sur la façon dont elle devait agir. Non loin de la ville se trouvait le couvent dans lequel vivait le vieillard connu par la sainteté de sa vie, par ses sermons, ses prédictions et les guérisons qu'on lui attribuait. Le vieillard avait reçu une lettre d'Eropkin dans laquelle il le prévenait de la visite de sa fille, de son état d'excitation anormale, et exprimait l'assurance qu'il saurait lui montrer la vraie voie de la bonne vie chrétienne moyenne, sans détruire les conditions existantes. Le vieillard, fatigué des réceptions, reçut Lise et se mit à lui prêcher tranquillement la modération, la soumission aux conditions existantes, et à ses parents. Lise se taisait, rougissait, se couvrait de sueur, et quand il eut terminé, les larmes aux yeux, elle commença timidement d'abord à lui faire observer que Christ a dit « Abandonne ton père, ta mère et suis-moi ». Ensuite, s'animant de plus en plus, elle lui expliqua comment elle comprenait Christ. Le vieillard d'abord, avec un léger sourire, objecta par les phrases habituelles, mais ensuite il se tut, se mit à soupirer, répétant sans cesse « Seigneur Dieu !»« Eh bien, viens demain te confesser, dit-il. » Et de ses mains ridées, il lui donna sa bénédiction. Le lendemain, elle se confessa, et il la laissa partir sans reprendre la conversation de la veille, mais en refusant de se charger de la distribution de ses biens. La pureté, le dévouement absolu à la volonté de Dieu, l'ardeur de cette jeune fille avaient frappé le vieillard. Depuis longtemps déjà, il voulait renoncer au monde, mais le couvent exigeait de lui l'activité, car cette activité procurait des revenus au couvent. Et il consentait, bien qu'il sentît vaguement toute la fausseté de la situation. On le croyait saint, thaumaturge, et il était un homme faible, entraîné par les succès. Mais l'âme de cette jeune fille qui s'était révélée à lui, lui avait révélé la sienne. Il se rendit compte qu'il était loin de ce qu'il voulait être et de ce à quoi son cœur entraînait. Peu après la visite de Lise, il s'enferma dans sa cellule et n'alla à l'église que 3 semaines plus tard. Il écouta la messe, puis après le service fit un sermon dans lequel il se dénonçait les péchés du monde et l'appelait au repentir. Il prêchait tous les 15 jours et à ses sermons accourait une foule de plus en plus grande. Sa gloire comme prédicateur se répandait de plus en plus. Il y avait dans ses sermons quelque chose de particulier, de hardi, de sincère. C'est pourquoi il avait une si grande influence sur les hommes. Entre-temps, Vassili avait fait ce qu'il était promis de faire. Avec des camarades pendant la nuit, il avait pénétré chez un marchand, Krasnopzov. Il savait qu'il était avare et débauché. Il avait fracturé la caisse et pris l'argent, 30 000 roubles, qu'il distribuait, comme il avait dit. Il avait même cessé de boire et donné de l'argent pour les noces de fiancés pauvres, payé des dettes. Lui-même se cachait et n'avait qu'un seul souci, bien distribuer l'argent. Il donnait aussi à la police et on ne l'inquiétait pas. Son cœur se réjouissait. Cependant, on finit par l'arrêter, et alors, devant le tribunal, il se vanta d'avoir pris l'argent de cet imbécile de Krasnopzov, qu'il employait très mal et même en ignorait le compte, tandis que lui, il avait mis cet argent en circulation et, avec cet argent, était venu en aide à de braves gens. Sa défense était faite également avec bonne humeur, de sorte que les jurés faillirent l'acquitter. Il fut condamné à une peine très légère. Il le remercia et prévint qu'il s'enfuirait. Le télégramme de Madame Svenzitsky au tsar ne fut suivi d'aucun effet. Dans la commission des recours en grâce, on avait d'abord résolu de n'en même pas faire mention au tsar.
Mais pendant le déjeuner de l'empereur, la conversation était venue sur l'affaire Svensitsky, le président de la commission des grâces, qui déjeunait précisément chez l'empereur, parla du télégramme de la veuve de la victime. « C'est très bien de sa part, » dit une dame appartenant à la famille impériale. Mais l'empereur, haussant les épaules, prononça « La loi !» et avança une coupe dans laquelle un valet lui versa du vin de la Moselle. Tous parurent émerveillés de la sagesse de la parole prononcée par l'empereur, et il ne fut plus question du télégramme. Quant aux deux paysans, vieux et jeunes, ils furent pendus. On avait fait venir de Kazan le bourreau qui les exécuta, un tatar, terrible assassin, et qui avait eu commerce avec les bêtes. La vieille avait voulu vêtir le corps de son mari d'une chemise et de chaussons blancs, mais on ne l'y autorisa pas, et les deux cadavres furent enfouis dans la même fosse derrière la haie du cimetière. « La princesse Sophie Vladimirovna m'a parlé d'un prédicateur extraordinaire, » dit une fois la mère de l'empereur, la vieille impératrice, à son fils. « Faites-le venir, il pourrait prêcher à la cathédrale. »«
Non, ce sera mieux chez nous, » dit l'empereur, et il donna l'ordre d'inviter le moine Isidore.
À la chapelle du palais s'étaient réunis tous les généraux et toute la cour. Un nouveau prédicateur extraordinaire était un grand événement. Un petit vieillard, maigre, tout blanc, parut. Il jeta un regard circulaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il commença. D'abord, tout alla bien. Mais en avançant dans son sermon, les choses se gâtèrent. Il devint de plus en plus agressif, comme le dit ensuite l'impératrice. Il lançait les foudres sur tous. Il parlait de la peine de mort et attribuait au mauvais gouvernement la nécessité de la maintenir. Était-il possible que dans un pays chrétien, on tuât des hommes? Tous se regardaient et tous n'étaient occupés que de l'inconvenance de ce sermon et de l'ennui qu'il devait causer à l'empereur. Mais personne ne le disait. Aussitôt qu'Isidore eut prononcé « Amen », le métropolite s'approcha de lui et lui demanda de passer le voir. Après son entretien avec le métropolite et le procureur général du Saint-Synode, le vieillard fut aussitôt envoyé au couvent, non au sien, mais au couvent de Swadaï, dont le père Missail était supérieur. Tous faisaient comme s'il n'y avait rien eu de désagréable dans ce sermon du père Isidore, et personne n'en parlait. Il semblait au tsar que les paroles du vieillard n'avaient laissé en lui aucune trace. Mais deux fois durant cette journée, il se rappela l'exécution des paysans pour lesquels Madame Svensitsky avait demandé grâce par télégramme. Dans la journée, il y eut une revue militaire, ensuite une promenade, puis la réception des ministres, puis le dîner et le soir, spectacle. Comme à l'ordinaire, l'empereur s'endormit aussitôt, sa tête posée sur l'oreiller. Pendant la nuit, un rêve affreux l'éveilla. Des potences se dressaient dans un champ, des cadavres s'y balançaient, et ces cadavres tiraient une langue qui s'allongeait de plus en plus, et quelqu'un criait « C'est ton œuvre, ton œuvre !» Le tsar se réveilla en sueur et se mit à réfléchir. Pour la première fois, il réfléchit à la responsabilité qui lui incombait, et il se remémora toutes les paroles du vieillard. Mais en lui, il ne voyait l'homme que de loin, et il ne pouvait céder aux simples exigences humaines à travers les exigences qu'on lui imposait de tous côtés comme tsar. Et il n'avait pas la force de reconnaître les devoirs de l'homme, plus obligatoires que ceux du tsar. Après avoir purgé en prison sa deuxième condamnation, Prokofy, cet élégant ambitieux, sortit de là un homme complètement perdu. Autrefois sobre, il était assis sans rien faire, et son père avait beau l'injurier, il mangeait le pain et ne travaillait pas,
et de plus guetter l'occasion de dérober quelque chose pour le porter au débit et boire. Il restait assis, tout sautait et crachait. Le médecin qu'il alla consulter l'ausculta et hocha la tête. « Pour toi, mon ami, il faudrait ce que tu n'as pas. Bah, »« Toujours ainsi, c'est connu. Bois du lait, allez, ne fume pas. Pas besoin de dire cela. C'est le carême et nous n'avons pas de vache. » Une fois au printemps, il ne dormit pas de toute la nuit. Il éprouvait une sorte d'angoisse et voulait boire. À la maison, il n'y avait rien à emporter. Il mit son bonnet et sortit. Il alla dans la rue jusqu'au presbytère. La herse du sacristain était restée dehors, appuyée à la haie. Procophy s'approcha, chargea la herse sur son dos et se dirigea chez la Petrovna qui tenait une auberge. Peut-être lui donnerait-elle à boire. Mais avant qu'il ait eu le temps de disparaître, le sacristain sortit sur le perron. Il faisait déjà jour. Il vit Procophy en portant la herse. Hé, toi, que fais-tu ? Des gens sortirent, on arrêta Procophy et il fut mis en prison pour 11 mois. L'automne vint, on transféra Procophy à l'hôpital, il toussait. Toute sa poitrine se déchirait et il ne pouvait se réchauffer. Les plus vigoureux parmi ceux qui étaient à l'hôpital ne tremblaient pas, mais Procophy tremblait jour et nuit. Le directeur de l'hôpital faisait des économies de chauffage et ne chauffait pas l'hôpital avant novembre. Procophy souffrait beaucoup physiquement, mais son âme souffrait encore plus que son corps. Tout le dégoûtait et il haïssait tout le monde. Le sacristain, le directeur de l'hôpital, parce qu'il ne chauffait pas, le surveillant et son voisin de lit à la lèvre rouge et gonflée. Il haïssait aussi le nouveau forçat qu'on venait d'amener à l'hôpital. Ce forçat était Stéphane. Il était tombé malade d'une hérésie pelle à la tête et on l'avait transféré à l'hôpital et placé à côté de Procophy. D'abord, Procophy le haïssait, mais ensuite il se prit à l'aimer tant qu'il n'attendait que les moments où il pouvait causer avec lui. Ce n'était qu'après la conversation avec Stéphane que l'angoisse s'apaisait dans le cœur de Procophy. Stéphane racontait toujours à tous son dernier meurtre et l'influence qu'il avait eue sur lui. « Non seulement elle n'a pas crié, disait-il, mais elle se mit à dire « Tu aies pitié de moi, non de toi, mais de toi-même. » Oh, sans doute c'est terrible de perdre une âme. Une fois je me suis chargé de tuer un mouton. J'en étais hors de moi, et pourquoi les maudits m'ont-ils perdu? Je n'ai fait aucun mal à personne. Eh bien, ça te comptera. Où? Comment où? Et Dieu? Oh, on ne le voit pas souvent. Et moi, frère, je ne crois pas. Je pense qu'une fois mort, l'herbe poussera, et c'est tout. Comment peux-tu penser ainsi? Moi, combien d'âmes ai-je perdues? Tandis qu'elle, la sainte, elle ne faisait que secourir les autres. Alors quoi? Tu penses que mon sort sera le même que le sien? Non. Alors, tu penses que, quand on meurt, l'âme reste? Mais c'est sûr. Procophy souffrait beaucoup pour mourir. Il étouffait sans cesse. Mais à ces derniers moments, il se sentit tout d'un coup soulagé. Il appela Stéphane. « Eh bien, frère, adieu. Évidemment, c'est la mort qui vient. Voilà, j'avais peur et maintenant, rien. Je désire seulement qu'elle vienne plus vite. » Et Procophy mourut à l'hôpital. Les affaires de Jean Mikhailovitch allaient de mal en pis. Le magasin était hypothéqué, le commerce ne marchait pas, un autre magasin s'était ouvert dans la ville, et il avait les intérêts à payer, et il lui fallait emprunter de nouveau, et payer de nouveau. À la fin des fins, le magasin, avec toutes les marchandises, allait être mis en vente. Eugène Mikhaïlovitch et sa femme frappèrent à toutes les portes afin de trouver les 400 roubles nécessaires pour les sortir de là, mais ils n'obtinrent rien. Ils avaient fondé quelque espoir sur le marchand Krasnoputsov, dont la femme d'Eugène Mikhaïlovitch connaissait la maîtresse, mais maintenant toute la ville savait qu'on avait volé chez Krasnoputsov une forte somme. On parlait d'un demi-million. « Et qui l'a volé ?» racontait la femme d'Eugène Mikhaïlovitch. « Vassili, notre ancien portier. On dit qu'il jette cet argent et que la police est achetée par lui. » « Oh, il a toujours été un vaurien, » remarqua Eugène Mikhaïlovitch. « Avec quelle facilité alors prêtait-il un faux serment ? Oh, j'en étais étonné. » « On dit qu'il est entré dans notre cour. La cuisinière dit que c'est hier. Elle raconte qu'il a marié 14 filles pauvres. On invente tout cela. » Au même moment, un passant étrangement vêtu entra dans le magasin. « Que te faut-il ? Voici une lettre. De qui ? Oh, c'est écrit dedans. Faut-il une réponse ? Mais attendons. Ah, impossible ! » Et l'homme étrange, après avoir remis l'enveloppe, s'en alla hâtivement. C'est bizarre. Eugène Mikhaïlovitch ouvrit l'enveloppe et n'en crut pas ses yeux. Des billets de 100 roubles. Il y en avait 4. Mais que voulait dire cela ? Il lut la lettre pleine de fautes d'orthographe. D'après l'évangile, il est dit : fais le bien pour le mal. Vous m'avez fait beaucoup de mal avec le coupon, et j'ai fait beaucoup de mal aux paysans. Mais cependant, j'ai pitié de toi. Prends ces 4 billets de 100 roubles, et souviens-toi de ton portier Vassili. Oh non ! C'est extraordinaire ! Se disait Eugène Mikhaïlovitch. Et quand il se rappelait cela, ou en parlait avec sa femme, des larmes se montraient dans ses yeux et la joie emplissait son âme. Dans l'inpatché du couvent de Souzdal, 14 ecclésiastiques étaient détenus et presque tous pour avoir renoncé à l'orthodoxie. C'était là qu'avait été aussi envoyé Isidore. Le père Mikhaïl reçut Isidore, d'après l'indication des papiers, et, sans causer avec lui, ordonna de l'enfermer dans une cellule comme criminel important. Il y avait 2 semaines que le père Isidore était en prison quand le père Mikhaïl fit le tour des prisonniers. Il entra chez Isidore et lui demanda s'il avait besoin de quelque chose. « J'ai besoin de beaucoup de choses, » répondit-il, « mais je ne puis te le dire devant témoins. Donne-moi l'occasion de te parler en tête à tête. » Leurs regards s'étant rencontrés, Mikhaïl comprit qu'il n'avait rien à craindre et il donna l'ordre de conduire Isidore dans sa cellule. Une fois seul, il lui dit « Eh bien, parle !» Isidore tomba à genoux. « Frère, dit Isidore, que fais-tu ? Aie pitié de toi-même. Il n'est pas de criminel pire que toi. Tu as foulé aux pieds tout ce qui est sacré. » Un mois après, Mikhaïl envoyait une requête dans laquelle il demandait qu'on libérât comme repenti non seulement Isidore, mais tous les autres, et lui-même demandait à être envoyé dans un couvent pour se reposer. 10 ans se sont écoulés. Mityas Mokovnikov a terminé ses études à l'école technique. Il est maintenant ingénieur avec de gros appointements dans des mines d'or en Sibérie. Il avait besoin d'aller visiter les mines. Le directeur lui proposa de prendre pour l'accompagner le forçat Stepan Pelagouchkin. « Comment, un forçat ? N'est-ce point dangereux ?»« Avec celui-ci, pas de danger. C'est un saint. Demandez à n'importe qui. Mais pourquoi a-t-il été envoyé ici ? Le directeur sourit. Il a tué 6 personnes, mais c'est un saint. Je me porte garant pour lui.
Mitias Mokovnikov accepta donc Stepan, chauve, maigre, bruni, et partit avec lui. En route, Stepan soignait tout le monde, et surtout Smokovnikov. Il lui raconta toute son histoire, comment il vivait maintenant et pourquoi. Et chose étonnante, Mitias Mokovnikov, qui jusqu'à ce jour n'avait vécu qu'en buvant, mangeant, jouant aux cartes, pour la première fois se mit à réfléchir sur la vie. Et ses pensées ne le quittaient plus et bouleversaient son âme de plus en plus. On lui proposa une place qui comportait de gros appointements. Il la refusa et résolut d'acheter avec ce qu'il possédait une propriété, de se marier et, dans la mesure de ses forces, de servir le peuple. Ainsi fit-il. Mais auparavant, il alla chez son père, avec qui il était en mauvais terme à cause d'une nouvelle famille que son père avait installée. Il avait résolu de se rapprocher de son père et il le fit. Celui-ci, étonné, d'abord se moqua de lui. Ensuite, il cessa de se moquer, se rappelant plusieurs cas où il avait été coupable envers son fils.